Mare Nostrum sur Radio Zinzinex.
Des mondes antiques aux migrants d'aujourd'hui.
L'actualité, la culture, les sciences sociales.
Dans l'ère méditerranéenne.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Je suis heureux de vous accueillir dans ce 125e numéro de Mare Nostrum, le seul magazine radiophonique francophone qui se propose de vous faire découvrir la Méditerranée à travers les siècles et les pays qui l'abordent en compagnie des chercheurs qui sont mes invités. Aujourd'hui, nous allons apprendre à connaître un peu mieux une des grandes divisions du monde musulman, celle qui sépare les sunnites et les chiites. Il y a certes des différents religieux, mais il y a aussi des incidences sur les rapports sociaux, sur les engagements politiques et même au-delà sur la géopolitique du Moyen-Orient. Donc aujourd'hui, j'ai notre invité, qui rend son rond de serviette dans notre émission, un invité qui a l'habitude de notre micro. Bonjour Christian Monberger.
Bonjour.
Vous êtes donc une nouvelle fois notre invité et bien sûr, encore une fois, je vous remercie de venir dans mon émission parce que vous, à chaque fois, nos émissions sont extrêmement intéressantes. Donc, je rappelle que vous êtes professeur émérite d'ethnologie à l'IDEMEC, Institut d'ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative, dont vous êtes le fondateur, qui est donc un laboratoire de la MMSH, la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, à Aix-Marseille Université, et nous sommes bien sûr partenaires avec cette maison. Vous êtes aussi membre de l'Institut universitaire de France, et vous avez encore des activités multiples, variées, vous êtes toujours à droite, à gauche, je le sais, parce que quand je vous envoie des mails, des fois vous n'êtes pas là, et puis hop, je vois réapparaître, vous réapparaissez en disant « Ah ben j'étais là ». Voilà. Et vous avez également de nombreuses fonctions administratives et scientifiques dans des instituts universitaires, des musées, des revues scientifiques, etc. etc. Vous êtes très, 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 très occupé et je suis d'autant plus content que vous acceptiez à chaque fois mon invitation et je vous en remercie une nouvelle fois.
Mais c'est volontiers.
Oui, maintenant on se connaît bien pour faire les émissions, donc ça se passe vraiment très très bien. Alors, il faut commencer par le début, à savoir... En discutant comme ça à droite à gauche, je me suis rendu compte que les gens ne savaient pas la différence entre chiites et sunnites. Et donc, vous qui êtes spécialiste, vous allez pouvoir nous expliquer ça. Je sais que ce n'est pas simple, mais vous avez l'art d'expliquer les choses. Alors, je vous donne la parole.
Alors, Mahomet meurt, le prophète donc, meurt en 632 sans avoir clairement désigné un successeur. Quel principe retenir ? Le principe généalogique ou bien le principe électif ? Mahomet n'avait plus de descendants mâles. Son seul enfant vivant était sa fille Fatima, qui avait épousé le cousin de Mahomet, Ali, qui devint ainsi son gendre, à la fois gendre et cousin du prophète. Ali, donc, simplifions chiite, chiite. Chia en arabe, ça veut dire partisan. Ce sont les partisans de Ali. Donc, Ali revendiqua la succession du prophète, mais celle-ci revint, selon le principe électif, à un vieux compagnon de Mahomet, Abou Bakr, qui devint le premier calife, c'est-à-dire le premier chef temporel chargé de faire exécuter la loi. À Abou Bakr succédèrent Omar, puis Osman, puis Ali, une fois Osman assassiné, lequel Ali eut à faire face à deux révoltes, dont la seconde lui fut fatale. Ali avait deux fils, le premier Hassan, qui mourut en 669, empoisonné par une femme de son harem, qui avait été soudoyée par le calife Mouawiya, le fondateur de la dynastie Omeyyade. Hossein, lui, refusa de prêter allégeance au calife Yazid, le fils de Moawiya. Et les gens de Koufa, où se trouvait le califat du temps de Ali, puisque Ali avait été pendant 4 ans calife avant d'être lui-même assassiné. Et donc, il avait exercé son califat à Koufa. Et les gens de Koufa lui demandèrent à Hossein, donc au fils de Ali, de venir dans leur ville. Alors il vint pour affronter dans la plaine désertique de Kerbala l'affrontement donc entre les troupes de Hossein et celles de Yazid. Yazid donc qui était une fois de plus le fils de Moawiya. Les troupes de Hossein furent battues dans des conditions atroces, avec la soif, la faim, etc. Et les chiites commémorent ce massacre et le supplice de Hossein le jour de Ashura, le 10 du mois de Muharram, qui est le grand rituel d'affliction des chiites. Alors les différences entre chiisme et sunnisme sont d'une part ce que nous venons de raconter, et d'autre part, deux conceptions différentes de l'interprétation du texte sacré, le Coran. Alors, il y a aussi quelque chose qui est important dans le chiisme, c'est l'imamate. Lors de la bataille de Kerbala, donc, dont je viens de parler, les femmes furent épargnées, ainsi que 2 ou 3 garçons, dont Zayn al-Abidin, qui était le fils de Hossein, et qui deviendra le 4e imam des chiites. Les chiites reconnaissent en effet, contrairement aux sunnites, des descendants du prophète. Ali a été le 1er imam, Hassan le 2e, Hossein le 3e, et Zayn al-Abidin le 4e, et ainsi de suite jusqu'au 12e imam, l'imam caché, qui reviendra à la fin des temps. Alors, selon les traditions, il précédera le Christ ou bien il arrivera la main dans la main avec le Christ pour au moment de l'Apocalypse. Mais tous les chiites ne reconnaissent pas 12 imams. Ce qui fait que c'est le cas des Houthis, par exemple, au Yémen, qui ne reconnaissent que 4 imams. Et des Ismaéliens également, qui en reconnaissent 6. Par ailleurs, les chiites, donc, comme je vous le disais, considèrent que le Coran étant une œuvre humaine, peut être interprété, contrairement aux sunnites. Donc, puisque les sunnites refusent cette interprétation du Coran. On pense aussi au personnel extrêmement hiérarchisé dans le chiisme, avec ses ayatollahs, ses odjatol islam, etc. Donc, il y a, si vous voulez, aussi une hiérarchisation dans le clergé chiite qui n'existe pas dans le sunnisme, sunna voulant dire, sunna c'est la tradition, donc d'un côté la tradition, de l'autre côté les partisans de Ali, voilà un petit peu, si vous voulez, ce qui constitue la différence entre chiisme et sunnisme. J'espère avoir été assez clair.
Oui, c'est une affaire de famille, finalement.
C'est une affaire de famille.
Donc, dès cette naissance, il y a une opposition violente entre les deux.
Ah oui, il y a une opposition violente entre les deux, et une opposition qui demeure aujourd'hui, d'ailleurs, parce que le mouvement islamiste est essentiellement sunnite, qu'il s'agisse d'Al-Qaïda ou de Daesh, et avec une persécution des chiites. Prenons le cas des Hazaras en Afghanistan. C'est un groupe chiite dans un pays sunnite et sunnite extrémiste. Eh bien, les Hazaras sont persécutés par le pouvoir sunnite en Afghanistan.
Oui, donc leur histoire, c'est une histoire d'échange permanent de violence. Continuellement.
Oui.
Oui, ça va nous donner des éléments intéressants pour leur rôle politique et la façon dont les choses se passent. Et donc, quelle est la situation actuelle, la situation religieuse au Proche-Orient ? Quel est le rapport entre les deux ? Toujours le même ?
Oui, toujours le même. Alors, on a pu parler, non sans exagération, d'un arc ou d'un croissant chiite au Proche-Orient qui réunit donc une minorité dans la partie orientale de l'Arabie saoudite, Bahreïn, dans les Émirats du Golfe Persique, et en son centre, l'Iran, puis alors aussi une grande partie de l'Irak, les Alaouites en Syrie, le sud du Liban sous la férule du Hezbollah, tout ça étant évidemment une opposition chiite au sunnisme. Mais cet arc n'englobe pas toutes les minorités chiites au Moyen-Orient. Il faudrait aussi mentionner les Houthis au Yémen, les Alevis en Turquie, l'État d'Azerbaïdjan. Il faudrait aussi signaler que tous les États à majorité chiite, tels que l'Azerbaïdjan par exemple, ne sont pas solidaires des autres membres de l'ARC. Il faudrait encore indiquer que l'appartenance à l'ARC chiite n'exclut pas la coopération avec telle minorité sunnite, ainsi entre l'Iran et le Hamas sunnite à Gaza, ou encore que deux parties de la même obédience peuvent être en conflit. C'est le cas en Irak, où des chiites s'opposent à d'autres chiites pro-iraniens, l'appartenance nationale prenant le pas sur l'appartenance confessionnelle. Cela dit, les liens entre populations de même obédience sont privilégiés, et rappelons que hors de l'Irak, et surtout en Iran, le sunnisme demeure majoritaire dans la région du Proche-Orient, et qu'aujourd'hui, cette frontière religieuse et géopolitique est tendue. Elle est d'autant plus que s'y opposent au-delà des puissances régionales deux camps. Le camp sino-russe et pro-américain. Certes, il y a une reprise des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie saoudite en 2023, due à l'action diplomatique de la Chine. Mais cette relation va-t-elle durer ? On balance entre deux options. Une reprise qui tournera mal si l'on se fie à ce qui s'est passé récemment à Isfahan, en Iran, face à la statue de Soleimani, héros de la révolution iranienne, tué par les Américains en 2020, les footballeurs saoudiens ont refusé de jouer un match, donc parce qu'il y avait cette statue de Soleimani à l'entrée du stade d'Isfahan. D'autre part, autre option, donc, et là j'hésite entre ces deux options, la Russie et la Chine vont attirer dans leur orbite le Moyen-Orient dans son ensemble. C'est une autre possibilité.
Oui, oui, c'est ça, c'est l'installation d'une situation conflictuelle, y compris avec les alliés.
Oui.
C'est ça.
Donc là, c'est vrai qu'il y a eu ce traité, cette reprise des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie saoudite en 2023, mais qu'est-ce qu'il va advenir ? Est-ce que la différence religieuse va être encore dominante par rapport à ce rapprochement dû à la Chine et sans doute à la Russie aussi, ou bien alors... est-ce que l'on va continuer dans la même voie d'opposition entre les chiites et les sunnites ?
Alors, pour revenir à la répartition dans le Moyen-Orient, là, est-ce qu'on a une idée du rapport de force entre les deux ? Les plus nombreux, c'est quoi ? Ce sont les sunnites ?
Ce sont les sunnites, oui.
Ouais. Et de beaucoup ?
Écoutez, j'ai pas fait là. Mais oui.
C'est très largement.
D'ailleurs, bon, il y avait un certain nombre de régimes qui étaient... d'obédience chiite, alors je pense à la Syrie par exemple, mais la majorité de la population est sunnite. Alors en revanche, en Irak, c'est le contraire, la majorité de la population est chiite, mais il y avait Saddam Hussein qui est sunnite.
Oui, c'est vraiment des curiosités, ça.
Oui, c'est des curiosités.
C'est un drôle de mélange quand on connaît l'histoire particulièrement violente entre les deux.
Oui.
C'est vraiment très, très surprenant.
Oui.
On va faire une petite pause musicale. Alors, pour les pauses musicales, j'ai trouvé des musiques chiites et sunnites.
Oui.
Qui sont bien sûr des musiques religieuses, oui. Bien évidemment. Hein. Alors, j'ai un peu mélangé les deux. Je vais les alterner. Voilà, comme ça.
Bah écoutez, pourquoi pas, oui, voilà. Très bien.
Ils vont se retrouver proches comme ça les uns des autres. Alors, bien sûr, ces deux groupes, ce sont les sunnites qui sont très, très largement majoritaires. Mais il y a quand même, forcément, on va dire par l'histoire fait que, une bonne partie de ces régions sont en fait mélangées, même si les sunnites restent majoritaires. Alors, comment ça peut fonctionner, ça, dans les États? Vous avez quelques exemples intéressants, là.
Oui, alors, écoutez, ça fonctionne en général par un repli sur sa propre religion, ce qui fait qu'il y a très peu de mariages interconfessionnels entre chiites et sunnites. C'est le cas au Turkménistan, c'est le cas au Baloutchistan, et d'autre part également, c'est le cas aussi en Irak, où il y avait... Alors, Saddam Hussein avait favorisé les mariages interconfessionnels entre chiites et sunnites, pour renforcer l'unité de la nation, ce qui était son obsession. Mais en dehors de ça, il y a eu très peu de mariages qui sont faits dans cette direction. Des mariages sushis, c'est-à-dire des mariages sunnites chiites, comme les appelle un collègue spécialiste d'Irak. Et donc, il y a eu très peu d'alliances qui ont été faites entre les sunnites et les chiites, aussi bien d'ailleurs en Irak que par ailleurs dans d'autres régions de l'arc chiite, que ce soit en Syrie, que ce soit également en Iran, où c'est très rare d'avoir des mariages entre sunnites et chiites. Et d'ailleurs, ce qui m'avait frappé, c'était de voir dans les récits, dans les paroles des grands ayatollahs, donc les marja et tarlid, c'est-à-dire donc les sources d'imitation, à quel point le mariage entre sunnites et chiites ne posait pas de problème pour eux, pour peu que le mari soit chiite, c'est-à-dire donc pour les ayatollahs, marja et tarlid, pour trois d'entre eux, c'est-à-dire qu'ils transmettent son affiliation à sa progéniture. Pour un de ces ayatollahs, le mariage d'un homme sunnite avec une femme chiite est makrouh, c'est-à-dire indésirable, détestable, mais non répréhensible. D'un côté comme de l'autre, sunnite comme chiite, le problème est moins sensible si les enfants prennent le statut religieux du père, si celui appartient au courant majoritaire. Toujours est-il que les mariages sunnites-chiites sont dans tout le Moyen-Orient des exceptions. cette situation étant entre autres due à un climat politique particulièrement tendu. Alors, j'avais étudié ces mariages sunnites-chiites dans une petite région du nord de l'Iran, qui est le Talesh. Le Talesh est une région ethnique du nord de l'Iran qui jouxte l'ex-Union soviétique et qui jouxte le Gilan près de la mer Caspienne. Et ce qui est intéressant, c'est que là, j'avais interrogé des gens, puisqu'il s'agit d'une région qui est mixte sunnite-chiite. J'avais interrogé des gens, et évidemment, les gens m'avaient dit au premier abord, mais c'est le père qui décide ça, c'est comme dans les autres registres de la vie. Et puis en creusant un petit peu, en étant plus familier de ces gens, je me suis aperçu que, certes, il y avait une dévolution des biens qui était comme en régime patrilinéaire, qui allait du père au fils, et donc pour ce qui était des biens, ce qui était aussi du choix de la compagne, etc. Mais qu'il y avait une sorte de filiation complémentaire en ce qui concerne le choix de la religion, donc chiisme ou sunnisme. Et que cette filiation complémentaire était telle que les filles reprenaient en général la religion ou l'appartenance religieuse de leur mère et les fils de leur père. Ce qui fait, d'ailleurs, ça m'avait amusé parce que il y avait une petite fille, je me rappelle, de 6 ans qui disait « Man chiaste, moi je suis chiite » à son père qui était sunnite. et donc en lui faisant une sorte de moue pour lui témoigner de son inféodation aux règles locales qui étaient qu'elle avait repris la religion de sa mère. Et puis alors évidemment, selon les cas, selon la proximité que l'on peut avoir avec son père ou sa mère, selon aussi la croyance que l'on peut avoir, on va choisir à l'adolescence, à la fin du ramadan, par exemple, ou lors d'un pèlerinage, telle ou telle affiliation, ce qui fait que cette règle de la transmission de la mère aux filles et du père aux fils n'est pas systématique. On peut choisir, soit aussi, son affiliation religieuse en fonction de ses goûts et en fonction des circonstances. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y ait là, il n'y a pas d'une part de séparation entre les chiites et les sunnites. Alors moi, j'avais visité le cimetière, notamment, où les tombes des sunnites voisinaient les tombes des chiites. Contrairement à ce que l'on a, par exemple, bon, vous vous rappelez, Raymond, vous n'êtes pas, vous êtes aussi, vous appartenez à la même génération que moi, vous vous rappelez quels étaient les problèmes entre les protestants et les catholiques.
Bien sûr, bien sûr.
Pourquoi ? Ben pour la filiation religieuse des enfants. Et donc, il fallait à ce moment-là montrer patte blanche si on épousait une protestante et donner véritablement des gages selon lesquels les enfants seront catholiques. Et oui, inversement, je suppose, du côté des protestants. Or, là, on a au contraire, si vous voulez, une certaine liberté et non pas quelque chose qui est donné par le père et qui est obligatoire pour les enfants. Et donc, cette filiation complémentaire m'a beaucoup intéressé puisque c'est le seul exemple que j'ai trouvé où il y avait véritablement une liberté de choix du conjoint. Et d'ailleurs, ce qui m'avait aussi beaucoup frappé, c'est que il y avait des mosquées qui étaient communes aux chiites et aux sunnites. Ce que je n'ai rencontré qu'une fois à l'extérieur, c'était en Géorgie, où les musulmans sont minoritaires, et où là, alors, il y avait en effet une seule mosquée dans la capitale pour les chiites et les sunnites. Mais donc avec néanmoins des offices différents pour les uns et pour les autres. Or, là, ce qui m'avait frappé, c'est qu'il y avait en effet deux mosquées à la rigueur dans le village, mais que les chiites et les sunnites pouvaient participer à la prière dans la même mosquée. Les uns, les bras le long du corps, les autres, les bras croisés.
Ah oui, ça fait partie également
fait partie,
de la différence.
Ça fait partie de la différence entre chiites et sunnites. Mais donc, il y avait la possibilité, puisque c'était plus proche d'aller à la mosquée sunnite ou chiite, eh bien, on y allait et donc on pouvait prier ensemble, ce qui était quelque chose de tout à fait extraordinaire dans le monde musulman, puisqu'il y a cette séparation entre chiite et sunnite qui est quelque chose de fort, y compris à travers les mariages, puisque moi, ce que m'expliquaient des spécialistes de l'Irak, c'est que quand il y a eu cette scission entre chiites et sunnites après le départ de Saddam Hussein, mais bon, un départ qui a été aussi quelque chose de positif pour le pays, il y a un certain nombre de couples qui ont dû divorcer. Divorcer parce qu'il y en avait un qui était chiite et l'autre sunnite. Il y avait véritablement cette identification qui était quelque chose de fort.
Oui, c'est finalement le nœud, les relations familiales, c'est un petit peu le nœud des relations et ça va assez loin.
Ça va loin.
Ces décisions.
Ça va loin et alors ça va si loin que, par exemple, dans une capitale comme Téhéran, où il y a 1 million de sunnites, qui viennent soit du Baloutchistan, soit du Turkménistan, etc., soit des Kurdes qui sont sunnites, soit des Arabes qui sont venus dans la capitale, il n'y a pas une mosquée sunnite. Et donc...
Et alors, ils en utilisent une autre ou...
Non. Ils se regroupent entre eux pour dire la prière ou pour leurs offices. Mais il n'y a pas, si vous voulez, de mosquée sunnite. Et donc, il y a quelque chose là de très frappant dans la mesure où l'orthodoxie, c'est le chiisme.
Mmh. Est-ce que ces relations et ces décisions à prendre dans la vie pour les femmes, pour les enfants, etc., est-ce que ça a quelque chose à voir avec ce qu'on entend souvent dans les pays musulmans, c'est-à-dire toute la législation concernant les femmes en particulier? Je sais pas, avec le code de la famille, par exemple, dans les pays du Maghreb. Donc, je sais que, par exemple, dans ce code de la famille, la femme, elle n'a aucun droit, aucun...
Oui, alors là, vous avez raison. Parce que, si vous voulez, d'ailleurs, on parlait de Germaine Tillion tout à l'heure, ce qu'elle montre dans son livre, c'est que dans le harem et les cousins, donc... qui a été un titre imposé par Jean Lacouture, qui s'occupait à ce moment-là des éditions du Seuil, si j'ai une bonne mémoire. Mais le harem et les cousins, c'est pas un bon titre. Germaine Tillion avait plutôt pensé à la République des cousins. Et alors, ce qu'elle montre, c'est qu'il y a dans ce monde musulman une pratique qui est l'endogamie familiale. Et donc, cette endogamie familiale, c'est-à-dire donc, on est forcé de prendre son conjoint plus dans la famille. Et en général, d'ailleurs, c'est le fils de l'oncle paternel qui est le cousin privilégié pour les alliances. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a une sorte... il faut se marier dans un degré très proche. Ce qui était la vérité aussi en Grèce antique et à Rome, dans la Rome antique aussi, où il y avait, si vous voulez, cette nécessité endogamique par rapport à ce qui existait ailleurs dans le monde, c'est-à-dire un mariage exogame, notamment dans le continent américain. Ce qui fait qu'on a pu parler, c'était Claude Lévi-Strauss qui parlait de cela, de flaques endogamiques en ce qui concerne le monde méditerranéen et le monde musulman en particulier. Une flaque endogamique, donc, qui va d'ailleurs très loin, parce que jusqu'en Asie, et donc au-delà du monde musulman, mais ce qui est très frappant, c'est qu'il y a une corrélation entre cette république des cousins et d'autre part le statut des femmes. Le statut des femmes qui est... subordonné à cette république des cousins, où, Germaine Tillion a des mots tout à fait forts en ce qui concerne cela. Donc, ces femmes produisant des homoncules vaniteux et irresponsables, dit-elle, qui donc ont tous les pouvoirs. Et donc, il y a un petit garçon, d'ailleurs, je me rappelle dans son livre, qui dit « Je suis l'aîné, donc c'est très important ». Alors qu'en fait, le fait d'être aîné n'a pas une importance particulière sur le plan des capacités intellectuelles. Mais c'est vrai qu'on est dans des sociétés où il faut être à la fois aîné et épousé au plus proche. Et où le statut des femmes est déconsidéré. Ce qui fait d'ailleurs qu'il y a eu cette révolte extraordinaire en Iran, « Femmes, vie, liberté », qui a été véritablement, nous a émus particulièrement en 2022. Alors il est évident que pour reprendre, il faudrait qu'il y ait une organisation et un leader, puisqu'on est dans des pays où il faut également qu'il y ait un leader pour, et une organisation pour donner plus de perspectives à un mouvement. Vous savez, c'est un peu différent quand même, ce mouvement, de ce qu'on avait connu en 1968 au Quartier Latin. Parce qu'au Quartier Latin, vous pouviez vous évader face aux forces de police par des petites rues. Ce qui n'est pas le cas à Téhéran, où vous avez de grands boulevards. Et, mon Dieu, manifester dans de grands boulevards,
c'est dangereux.
C'est dangereux. C'est très dangereux, et surtout vu les forces de répression qui existent dans ce pays. Donc, il faudra attendre sans doute une autre, qu'il y ait une organisation et un leader pour que, véritablement, ce mouvement puisse connaître une véritable destinée. Ce qui n'est pas le cas pour le moment, mais on peut espérer.
On peut espérer pour elle,
que ce soit le cas dans un futur proche.
Oui.
Alors vous voyez d'ailleurs, en Iran, il y a presque la moitié des mariages qui sont toujours arrangés.
Mmh.
Alors évidemment, on est loin de... Alors il ne s'agit pas seulement de la République des cousins, mais d'un mariage arrangé néanmoins qui permette... soit de réunir deux familles qui s'opposaient auparavant, et donc un mâle et une femelle sont à ce moment-là sacrifiés pour que soient réintroduits des relations correctes entre...
C'est un traité, quoi. C'est un traité de paix.
Un traité de paix, oui, voilà.
Vivant.
Pour qu'il y ait un traité de paix entre deux familles. Soit néanmoins, bon, bah, pour que ce soit à l'intérieur d'une famille connue, soit aussi à l'intérieur d'une classe sociale connue. Et donc, il y a cette capacité d'arrangement. Alors, arrangement ne veut pas dire, si vous voulez, qu'on est contraint d'épouser tel ou tel. On peut refuser. Non, non. D'ailleurs, ce sont les femmes qui se chargent de ça. Ah ben, attention, non, lui, il est trop bigot, et donc ça ne va pas marcher, le mariage entre eux, etc. Donc, il y a véritablement une discussion entre les femmes pour trouver une solution adéquate. Et cette solution est en général trouvée, et puis il faut s'y plier. Et donc, dans une partie quand même importante de la population, il y a encore ces mariages arrangés, mais qui n'ont pas... Ce n'est pas des mariages contraints, ce n'est pas des mariages forcés, c'est des mariages arrangés.
Oui, ce n'est pas pareil.
C'est pas pareil.
Oui, puisque apparemment, c'est une décision des femmes pour les femmes.
Oui, voilà, oui.
On refait une pause musicale. Alors, je répète toujours, c'est ou l'une ou l'autre, je ne me rappelle plus trop.
Yeah.
Alors, en parlant de mariage, la situation des femmes n'est peut-être pas partout pareille dans les États musulmans. Et donc, il y a des États où j'ai... Est-ce que le libéralisme politique, un peu de libéralisme politique, pas forcément beaucoup plus que ça, est-ce que ça a amélioré le statut des femmes, et en particulier dans le cadre du mariage, puisqu'on parle du mariage là, des mariages qui sont quand même assez symptomatiques des relations entre les deux groupes religieux?
Oui, écoutez, alors, évidemment, il y a une différence, sans doute, sur le plan... du mariage, notamment sur le plan de l'héritage, où en matière d'héritage, entre chiites et sunnites, il y a une légère différence dans la mesure où les femmes peuvent être favorisées. S'il n'y a pas d'héritier mâle, alors que dans le sunnisme, il faudra aller vers l'héritier le plus proche, même s'il n'y a pas d'héritier direct dans la famille, il faudra que ce soit un héritier mâle de toute façon.
Ah oui.
Donc, il y a...
C'est quand même une différence importante.
Une différence,
hein,
oui,
socialement.
Mais qui, si vous voulez, statistiquement est rare, puisque en général, il y a quand même des héritiers mâles. Bon, enfin, bref.
Ouais.
Mais c'est vrai que là, il y a une différence qui est relativement importante et qui peut affecter les relations entre chiites et sunnites. Mais à côté de ça, il ne faut pas se fier aux lois, parce qu'il y a l'application des lois également. Et l'application des lois est en général très différente des lois elles-mêmes. Alors, il y a évidemment des lois qui font, par exemple, qu'une femme en Iran ne peut pas être juge. Ce qui fait que pour être juge, il faut être un homme. Et donc, il n'y a pas, si vous voulez, de possibilité pour les femmes d'exercer toutes les professions. Alors, en même temps, vous me parliez de libéralisme, ça dépend évidemment des classes sociales. Les mariages arrangés dont je parlais tout à l'heure, c'est surtout dans les classes populaires que l'on parle de mariage arrangé, mais dans le nord de Téhéran, où se regroupent en général les gens les plus occidentalisés, une femme pourra choisir directement son mari, quelles que soient les pressions de la famille. Il y a donc une plus grande tolérance du côté de ces classes sociales qui sont occidentalisées. Donc, à mon avis, ça n'est pas tellement une question de loi, mais c'est plus une question de pratique selon les catégories sociales envisagées. Alors évidemment, dans l'Iran des campagnes, à ce moment-là, il y aura une plus forte pression familiale. Bon, mais comme on peut la connaître aussi dans ces milieux en France au XIXe siècle, où il y avait aussi cette pression qui faisait que l'on pensait héritage avant de penser mariage, et on pensait unité de l'exploitation avant de penser aussi aux relations matrimoniales. Donc, vous voyez, moi, les lois, oui, certes, je sais que vous me l'avez appris, qu'au Maroc, il y a des lois qui prescrivent une plus grande liberté des femmes, tant mieux. Mais est-ce que c'est véritablement la pratique? Ça, c'est autre chose.
Ouais.
Et donc, bon, alors, évidemment, on ne peut que se féliciter de l'existence de ces lois qui n'existent pas en Iran, et ce qui fait qu'un homme qui... tue sa femme, sera certes condamné, mais si vous voulez, les conséquences ne seront pas les mêmes que si une femme tue un homme. Donc, on peut évidemment discuter de ce genre de cas, mais en même temps, il est vrai qu'il y a une grande variabilité selon les catégories sociales envisagées.
Oui, c'est plus les catégories sociales que l'appartenance au chiisme ou au sunnisme.
Oui.
Alors, donc là, on évoquait les relations sociales, donc en particulier les mariages mixtes qui poseront des... C'est vraiment très, très intéressant.
Ah oui,
parce qu'il y a une diversité, et puis il y a une façon de faire fonctionner la société qui est assez remarquable, assez intéressante, quoi, hein, dans ce monde musulman, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Alors, si on revient à l'opposition entre chiisme et sunnisme, est-ce que la situation telle qu'on l'a évoquée tout à l'heure, de l'arc sunnite et puis du chiisme qui est plus dispersé, enfin c'est moins, il y a moins d'espace, quoi,
hein. Oui.
Est-ce que ça entretient une situation de guerre plus ou moins, quoi, pas forcément des combats, mais de relations particulièrement difficiles entre les États?
Alors oui, écoutez, il est vrai que l'Iran chiite s'est opposé à Saddam Hussein sunnite pendant une guerre qui a duré longtemps. C'est vrai que c'était une opposition, si vous voulez, forte entre les États chiites et puis même les minorités qui gouvernaient les États. Je pense à la Syrie, par exemple, avec ses Alaouites, et puis avec aussi donc des gardiens de la révolution iranienne qui venaient appuyer le chef de l'État. Donc, il y avait là quelque chose, si vous voulez, qui montrait cette solidarité chiite à travers le Moyen-Orient. Alors, est-ce que ça va durer? Bon, il est vrai que l'Arabie saoudite a repris des relations diplomatiques avec l'Iran en 2023 sous la direction de la Chine, qui est intervenue pour que ces relations reprennent. Est-ce que ça va durer? Je n'en sais rien. Donc je vous donnais tout à l'heure l'exemple de d'Ispahan, de Soleimani, qui a été véritablement un héros de la révolution iranienne et donc qui a été tué par les Américains. Et cette effigie de Soleimani à un stade d'Ispahan, donc, qui avait été mise en exergue par les autorités locales, les joueurs venant d'Arabie saoudite n'ont pas voulu jouer un match de football parce qu'il y avait cette statue de Soleimani, donc qui était un chiite militant et qui avait été véritablement un homme important de la révolution iranienne. Donc, je ne sais pas véritablement ce qui va avoir le dessus, si c'est l'opposition chiite-sunnite ou si c'est la Chine et la Russie qui vont avoir le dessus sur cette opposition qui a traversé véritablement l'histoire du Moyen-Orient.
La guerre entre l'Iran et l'Irak, ça a laissé des traces dans les relations?
Alors écoutez, ça a laissé des traces dans les relations dans la mesure où il y avait, si vous voulez, la minorité, enfin la majorité d'ailleurs chiite, mais la minorité sur le plan politique chiite, qui balançait, mais néanmoins, ce qui a été frappant lors de cette guerre, c'est que les sunnites arabes en Iran ont pris le parti national et non pas le parti religieux. De même, d'ailleurs, en Irak, vous voyez, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une opposition entre les chiites irakiens et les chiites d'inspiration iranienne, avec les chiites irakiens qui souhaitaient prendre le pas sur les chiites d'inspiration iranienne. Donc, le principe national était supérieur aux principes religieux. Et donc là, il y a quelque chose qui mérite aussi d'être réfléchi dans la mesure où véritablement il y a une prépondérance du sentiment national sur le sentiment religieux qui s'est exprimé récemment. Et aussi d'ailleurs dans la guerre Iran-Irak, moi ce qui me frappait, j'avais vu ça du point de vue de l'Iran, c'était ces Arabes sunnites, donc de la bordure sud-occidentale de l'Iran, que l'on aurait pu croire gagner par leur proximité avec le régime sunnite irakien, mais au contraire, qui avaient combattu dans les rangs des chiites iraniens. Bref, je ne sais pas trop ce que l'avenir nous réserve.
Oui, c'est curieux parce que c'est pas ce qu'on attend, quoi.
Oui. C'est pas ce qu'on attend. Oui. Alors bon, je sais que il y a beaucoup de spécialistes de l'Iran qui m'avaient dit oui, il y a ce principe national qui a. Est-ce que les Arabes sunnites n'ont pas eu peur en même temps? Je n'en sais rien.
Ouais, c'est possible, oui.
C'est possible ouais, aussi. Ouais. Mais c'était quand même tout à fait intéressant de voir, y compris quand l'Irak semblait dominer l'Iran, de voir que ces sunnites avaient pris quand même le parti d'un pays majoritairement chiite.
Oui. Oui, c'est là où on se rend compte le rôle qui paraît depuis quelques décennies paraît de plus en plus important, le rôle du nationalisme.
Voilà. Oui. Alors, vous voyez, par exemple, les Kurdes sont séparés entre sunnites et chiites, mais j'ai l'impression que le principe national l'emporte sur l'appartenance religieuse.
Mmh. Oui, tout
et
à fait.
Et que donc il y a la revendication d'un Kurdistan autonome, indépendant, qui prévaut sur l'appartenance religieuse des Kurdes.
Oui, c'est curieux comme ça, c'est en train de se... sur le plan géopolitique, c'est en train de oui. se généraliser. Hein, oui. C'est-à-dire que ça commence à... justement, la place du nationalisme efface un peu l'importance des options religieuses.
Oui, hein, tout à fait.
Ça, hein,
oui,
c'est ça. Alors, puisqu'on en disait deux mots, il y a quelque chose, vous l'avez dit à plusieurs reprises, comment ça se fait que ce soit des minorités, quelquefois, qui dominent une majorité différente
comme Oui, comme c'est le cas en Syrie, comme c'est,
par exemple,
et
ouais.
puis comme ça a été le cas en Irak aussi.
Ça s'explique, ça?
Ça s'explique...
Si ce n'est par la force, si ce n'est
par la force, oui.
Ouais. Par la force.
Oui. Par la force et par le fait aussi que, étant minoritaire, la force est nécessaire, la force politique est nécessaire pour dominer les autres. Les autres qui sont évidemment séparés géographiquement et séparés aussi par leur obédience, parce qu'il y a plusieurs courants, donc il y a des... Il y a des Ismaéliens, il y a des Zaïdites, etc. Donc, on ne peut pas, si vous voulez, dire qu'il y a véritablement une minorité qui domine une majorité dans la mesure où cette majorité est elle-même divisée entre plusieurs courants.
Bon. Oui, donc ils ne peuvent pas s'entendre.
Voilà.
Allez, une petite trêve musicale. Alors, il nous reste un peu de temps. Comme vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, il y a des chapelles, on va dire, à l'intérieur de ces deux grandes options, chiites et sunnites. Et voilà, on pourrait évoquer rapidement, est-ce que ces chapelles, c'est important? Est-ce que c'est plutôt unificateur? Est-ce que c'est plutôt diviseur? Est-ce que, parce qu'on parlait de la guerre en Irak, est-ce qu'il y a eu des défections d'un côté ou de l'autre de ces petites chapelles qui rejoint le camp adverse, etc.?
Ben, écoutez, il y a en effet des divisions, comme il peut y en avoir d'ailleurs dans le christianisme. Il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a les orthodoxes, et puis il y a les scissions à l'intérieur de chacune de ces branches. Donc, c'est vrai que ça existe aussi en islam, avec ces différences entre chapelles, ce que vous appelez des chapelles, des courants religieux. Mais voyez quand même comment ça. Il y a une unité néanmoins qui fait que quand, par exemple, les Houthis là sont en train de bombarder Israël ou essayent de bombarder Israël. Pourtant, ce sont des Haïdites, c'est-à-dire donc qui ne sont pas de la même branche du chiisme que en Iran, qui sont des duodécimains puisqu'ils ont 12 imams, comme je le rappelais tout à l'heure. Mais là, au contraire, donc on est en face de Zaïdites, ce qui est une branche du chiisme. Mais néanmoins, il y a cette solidarité, même si il n'y a pas exactement la même affiliation. Donc, c'est vrai que les Alevis aussi en Turquie. Bon, alors les Alevis, vous voyez que dans l'étymologie du nom, il y a aussi donc les partisans de Ali. Qui sont regroupés parmi les Alevis. Alors, évidemment, il y a une sorte de proximité aussi avec l'Iran, mais ce qui ne se dit pas de la même façon. Alors, c'est vrai que quand il y a de grands événements, il y a cette solidarité qui ressort. Cette solidarité religieuse ressort, cette solidarité d'affiliation religieuse qui ressort et qui, en effet... peut avoir des conséquences, parce que c'est quand même quelque chose, ben vous le voyez bien d'ailleurs aussi dans nos nations, comment l'appartenance chrétienne, alors qu'en fait il y a très peu de croyants véritables, mais comment cette appartenance de civilisation, cette appartenance religieuse de départ peut avoir des conséquences sur le plan politique et sur le plan du fait que l'on se range de tel ou tel côté.
Et on peut éventuellement en changer pour des raisons politiques. On évoquait l'Irak, par exemple.
Oui, alors on peut en effet, si vous voulez, en changer pour des raisons politiques. Et quelque chose qui se joue actuellement est, comment dire, l'émergence du nationalisme. Puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, on avait des sunnites, arabes sunnites en Iran, qui ont pris la cause néanmoins de leur pays par rapport à la solidarité qui devait les unir à un régime sunnite en Irak. Excusez-moi, c'est un peu compliqué. Mais donc, il y a cette lutte entre l'appartenance à l'affiliation religieuse à tel ou tel courant, et puis d'autre part, le nationalisme, qui est un problème que l'on connaîtra dans les années à venir. Qu'est-ce qui va gagner du nationalisme et puis ou de l'affiliation religieuse? On verra bien.
Oui, ça c'est plus compliqué, ça.
Oui.
Mais on peut dire par exemple que Poutine, il associe les deux.
À Poutine, Poutine, de toute façon, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir tout ce qui se trouve contre l'Europe et contre l'Amérique, donc l'Iran, la Chine, etc. Et puis, donc, cette campagne aussi qui est menée par la Chine et par la Russie également, de convertir, d'attirer vers eux, dans leur orbite, les États du Moyen-Orient.
Et vous me disiez tout à l'heure... Le rôle important, je reviens un petit peu en arrière, le rôle important des pèlerinages.
Oui, alors le rôle important des pèlerinages, il est bien vrai que quand on voit par exemple les Iraniens qui viennent en Irak pour manifester leur solidarité avec Hossein et donc sur le tombeau même de l'imam Hossein à Karbala, il y a véritablement, si vous voulez, un signe là de l'appartenance religieuse qui transcende les frontières politiques. Alors là, on est véritablement dans le problème de ce qui va dominer le nationalisme politique ou bien au contraire l'appartenance religieuse, l'appartenance à telle ou telle affiliation religieuse.
Et les deux branches ont les mêmes pèlerinages?
Ah non.
Non, hein, pas du tout.
Pas du tout. Non. Alors évidemment, il y a un pèlerinage, si vous voulez, qui est commun. C'est celui de la Mecque.
Ouais.
Bon, où on va manifester son appartenance. Mais on sait qu'il y a eu un certain nombre de tensions entre les chiites et les sunnites à cette occasion-là. Notamment, donc, il y a plusieurs années, avec cette opposition qui s'est manifestée et qui s'est manifestée par un nombre de morts important.
Oui, c'est vrai, oui. Je me souviens de ça.
À la Mecque. Et donc, c'est vrai aussi, donc, c'est le pèlerinage par excellence, mais un pèlerinage qui n'a pas seulement un aspect religieux, qui a un aspect économique aussi, puisque je vois qu'il y a beaucoup de gens en Iran qui se rendent à la Mecque, non pas tant pour des raisons religieuses, mais aussi pour des achats, puisqu'on peut faire un grand nombre d'achats. Alors ils y vont en dehors des périodes qui sont les plus sacrées sur le plan de la théologie.
Ouais. Et le fait que ce soit l'Arabie Saoudite qui est la garde et la gestion de la Mecque, du lieu saint, est-ce que ça pose un problème?
Alors, ça a pu poser un problème, donc, avec les événements dont nous parlions tout à l'heure, mais ça ne pose pas de problème dans la mesure où il s'agit véritablement de faire ce pèlerinage qui est une des conditions d'accès au jardin, au paradis, donc dans la théologie la plus stricte, qui est propre à la fois au chiisme et au sunnisme, d'ailleurs.
Une dernière question, rapide.
Je vous en prie.
De ces deux options, chiisme et sunnisme, est-ce qu'il y en a un qui est plus proche de l'Occident que les autres, politiquement ou...
J'ai beaucoup de mal à vous répondre.
Ouais. À cette question. Oui, ça m'est venu comme ça. Hein. On ne l'avait pas préparé, celle-là.
Oui, écoutez, il n'y a rien qui...
Il n'y a rien qui indique...
Qui indique une proximité plus grande, soit du chiisme, soit du sunnisme, par rapport à l'Europe et au christianisme. Alors, bon, il y a le martyr. Mais le martyr, il est partagé par ces diverses religions. Le martyr du Christ est proche du martyr de Hossein, c'est vrai.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, d'ailleurs, Hossein aurait même déclaré ça au moment de son martyr. Il aurait déclaré que c'était assez proche de ce qu'avaient infligé les Juifs au Christ et les Romains aussi, donc, lors du martyr du Christ.
D'accord. Mais enfin...
Mais je laisse la question ouverte.
Ben écoutez, je vous remercie beaucoup de nous avoir donné ces explications. Maintenant, je sais, mes auditeurs vont avoir les éléments de réponse aux questions qui se posent voilà, et que je vous ai posées. À bientôt pour se revoir, bien sûr, pour une nouvelle émission. Christian Bromberger.
Ben écoutez, volontiers.
Et vous aussi, ça me fait toujours plaisir de vous recevoir. Merci et au revoir à nos auditeurs et à bientôt. Ay, ay, garip saray, yok bana lan, 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 y